Revue accueille le professeur Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences. Il a mis sur pied le comité Solidarité Japon quelques jours après le séisme, le tsunami et l'accident nucléaire qui a eu lieu à Fukushima le 11 mars 2011. Un comité qui a remis ses premières conclusions à l'Académie des sciences du Japon pour mieux prévenir les risques sismiques à grande échelle ainsi que les risques nucléaires et médicaux. Alain Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Le président de l'Académie des sciences du Japon a demandé aux académies homologues du monde entier de les aider à analyser cet accident sans précédent et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de constituer ce comité qui, précisons-le tout de suite, a remis une partie de ses conclusions le 29 juin 2011 sur l'aspect sismique et nucléaire. L'aspect médical sera remis plus tard lorsque les informations seront suffisamment importantes et étudiées. Penchons-nous pour l'heure sur les risques sismiques auxquels un premier sous-groupe dirigé par Jacques Fridel s'est intéressé. Au vu des conclusions de ce groupe, le Japon, que l'on sait champion toute catégorie en matière de connaissance et de prévention des séismes, le Japon était-il préparé à ce méga-séisme de magnitude 9, Alain Carpentier ?
Vous l'avez dit, ça a été une très grande surprise que dans ce pays qui est le plus au fait des problèmes sismiques et des tsunamis, la communauté scientifique de ce pays a été surprise par l'importance et par les conséquences. L'importance, en effet, ils n'avaient pas prévu un niveau 9. Et il faut bien préciser tout de suite que c'est cette manifestation sismique qui a été responsable des plus grands effets délétères. La mortalité, le nombre de morts, le nombre de déplacés, le nombre de sans-abri sont dus à l'activité sismique, à ce tremblement de terre, et non pas, comme on le pense ou comme on le craint, au problème nucléaire.
Alors faut-il revoir à terme la cartographie des séismes potentiels au Japon et des vagues qui peuvent être la conséquence de ces séismes?
Il est sûr qu'il y a eu, de même qu'il y a eu un avant Tchernobyl et un après Tchernobyl, il va y avoir un après Fukushima, parce que les Japonais eux-mêmes se sont laissés surprendre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable que c'est le Scientific Council of Japan qui a fait appel à la communauté scientifique internationale pour réfléchir avec eux sur les conséquences, alors que d'habitude et avant, le Japon était un peu fermé sur lui-même et très jaloux de sa, on peut le dire d'ailleurs, supériorité en matière de réflexion scientifique sur le sujet des tremblements de terre et du nucléaire.
Justement, la transition est toute trouvée. Le nucléaire, il y a également donc un sous-groupe consacré au nucléaire qui a été présidé par Édouard Brézin qui s'est penché sur ces accidents en chaîne au sein de la centrale de Fukushima Daiichi après le séisme et le tsunami provoquant un accident majeur au niveau 7, le plus fort à l'échelle internationale des événements nucléaires. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas moins de 500 km² qui sont devenus inhabitables, 500 000 m3 d'eau contaminée et un refroidissement des cuves qui pourrait prendre plusieurs mois. Professeur Carpentier, ces conclusions sont-elles partielles ou définitives ?
Eh bien, elles sont partielles parce que presque chaque semaine qui passe, nous obtenons plus d'informations sur ce qui s'est passé. Mais cela demandera plusieurs mois, voire années, avant qu'on puisse tout comprendre. Ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu tout de même au niveau du Japon, et en particulier au niveau de la compagnie qui s'appelait TEPCO, qui était chargée de gérer les choses, il y a eu quand même un certain nombre d'imprudences. La première imprudence étant qu'on a implanté cette centrale nucléaire sur une zone à risque importante, et plus encore, on l'a implantée au niveau de l'eau, et non pas en hauteur, ce qui fait que le tsunami a eu un effet délétère considérable, qui a balayé absolument toutes les structures, coupé les sources d'électricité, coupé les sources de refroidissement, etc. Et par conséquent, je crois que la leçon est à tirer, pour tous les pays bien sûr, mais aussi pour le Japon.
Autre point que pointe justement le rapport, la nécessité peut-être d'une plus grande protection des piscines de stockage du combustible usagé.
Absolument, oui. On a découvert, on s'est aperçu que dans les piscines de stockage, il y avait eu un nombre d'éléments radioactifs plus important que cela n'aurait dû. Et ça, c'est un des aspects sur lequel, naturellement, Il faudra que les Japonais et puis les autres pays se penchent.
Autre sous-groupe que j'ai pu évoquer en introduction, le sous-groupe médical, qui pour l'instant n'a pas remis ses conclusions. Est-ce que vous avez une date à partir de laquelle ces premières conclusions pourraient être remises ?
Le sous-groupe médical a beaucoup travaillé, en particulier grâce à l'implication du professeur Orango et de Roland Mas. Ils ont beaucoup travaillé, mais le problème auquel ils ont été confrontés est le fait que des informations nous parviennent, je dirais, toutes les semaines, il y a des informations nouvelles. Il faut voir que l'aspect médical est certainement l'aspect le plus compliqué. Il est le moins physique, le moins mathématique, le moins statistiquement exploitable. Et par conséquent, avant de donner des conclusions, il nous faut réunir plus de données et surtout donner des conclusions prudentes parce que la tentation est le catastrophisme et en la matière et en réalité, ce qu'il faut, c'est l'objectivité.
Ce rapport du Comité Solidarité Japon porte un double regard, à la fois justement sur ces événements qui se sont déroulés au Japon, mais également les leçons à tirer pour la France. Alors sur l'aspect sismique, je pense qu'on n'a pas vraiment de crainte à avoir. En revanche, il semble que les sismologues qui appartiennent à ce sous-groupe sismique, d'ailleurs donc dirigé par Jacques Friedel, il semble que les sismologues portent l'attention sur une possible vague qui, au sud de la Méditerranée, pourrait arriver jusqu'au rivage, une vague de 1 à 5 mètres. Est-ce que vous pouvez nous en dire
oui,
plus?
Oui, mais 1 à 5 mètres n'a rien à voir avec les quelques 10 mètres et 15 mètres qui ont eu lieu. Alors, c'est vrai qu'une vague maximum qui a été calculée à l'ordre de 2-3 mètres produirait des dégâts. Enfin, je dois dire que tout de même, en France, je me méfie de dire toujours la phrase très française, de dire « on est les meilleurs que les autres ». Non, je crois qu'il faut être aussi humble et même plus humble que tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut être objectif aussi. Et la France, à bien des égards, est protégée d'un certain nombre de complications qui ont eu lieu au Japon. Elle est protégée d'abord parce qu'il existe des organismes de contrôle, qui est la sûreté nucléaire, et un organisme de recherche qui l'accompagne, de très bonne qualité, occupant plusieurs milliers de chercheurs. Et ces organismes sont des organismes qui sont des organismes d'État et tout à fait indépendants et particulièrement rigoureux. Par conséquent, on a la chance d'avoir ces organismes et de se reposer sur eux. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, nous ne sommes pas situés dans une zone sismique très active et très dangereuse. Donc, je crois vraiment qu'on peut rassurer la population à cet égard. Et enfin, les centrales françaises ne sont pas bâties sur des zones d'activité sismique.
Pas de préoccupation à avoir. Le rapport pointe cependant deux choses qui n'ont pas effectivement de lien direct avec l'aspect sismique et l'aspect tsunami, vague. Mais il pointe deux choses. La première, minimiser le transport de matières radioactives. Là aussi, pourriez-vous nous en dire deux mots ?
Je suis assez content que vous disiez ça parce que après quelques lauriers que je viens de décerner, n'est-ce pas, à notre pays, il y a tout de même beaucoup de choses à redresser. Et en particulier cette incroyable anomalie qui sont le transport de matières nucléaires. On n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi dans le nord il y a une structure et dans le sud il y a une autre structure et qu'on transporte les matières nucléaires entre ces deux pôles. Donc là, il va falloir d'ailleurs, dans notre rapport, avec beaucoup de vigueur, le sous-groupe nucléaire dénonce cette situation qui est tout à fait anormale.
Autre point relevé, ça sera donc la dernière question de cette émission Point de vue, autre point soulevé qui est que la recherche nucléaire en France aujourd'hui, la recherche nucléaire civile, aujourd'hui en France est financée à 80% par les industriels et je crois aussi que c'est un point important sur lequel le sous-groupe a travaillé.
Oui, nous insistons beaucoup sur ce rapport, sur la nécessité de renforcer les recherches. Si une des conséquences de ce drame humain est en effet la possibilité ou le stimulus donné à la recherche, ça sera l'élément positif qu'on aura pu en tirer. Avant de terminer, j'aimerais quand même dire deux choses. Premièrement, je voudrais souligner le comportement exemplaire d'une part de la communauté scientifique japonaise. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit un petit peu, ce pays qui était très habitué à sa relative supériorité en matière de compétences s'est ouvert spontanément aux autres pays, a demandé spontanément aux autres pays l'aide et en plus a fait un effort de transparence tout à fait méritoire. Nous avons reçu à l'Académie des sciences toutes les semaines une note d'information sur les progrès qui étaient faits. Alors ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque aussi forte et même encore plus, c'est l'hommage qui est à rendre au peuple japonais lui-même, qui en la circonstance a montré une dignité, une humanité, une sérénité devant l'adversité qui est tout à fait remarquable et qui devrait être pour tous un exemple.
Eh bien, merci, professeur Carpentier. Et donc, nous attendons la suite des conclusions de ce rapport dans les mois à venir. Merci à vous.